Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct des studios caniculés de Rosemont à Montréal, l'épisode numéro 28, si ma mémoire est bonne. Sinon, regardez à l'écran, là, je vais l'inscrire. L'épisode, et je vais vous dire, vous venez d'entendre la tout nouvelle introduction. C'est un de mes amis qui a fait ça. On le salue. Et j'ai capoté, ça m'a fait rire. Je trouve que le beat est fou, puis j'aime sa façon de rapper. Il rappe comme un dénommé Frenchy Blanco. Je sais pas, je pense pas que vous connaissez vous connaissez Frenchy Blanco à la maison, mais en tout cas, j'ai adoré. Puis je sais pas comment je fais pour remercier celui qui a fait ça, parce que est-ce que je nomme son nom de rappeur ou son nom dans la vraie vie? Donc, je vous annonce ça dans les prochains jours. Et cette semaine, je vais être honnête avec vous autres, là, je suis plus découragé que je l'ai jamais été dans ma vie. Okay? Kanye West qui se présente comme président des États-Unis. Je sais pas si vous le connaissez, Kanye West, là. Moi je le connais pas, mais j'ai lu tout ce qu'il a dit dans les dernières années. Et croyez-moi, il fait passer Donald Trump pour un servant de messe. Donc, je suis bien découragé de ça. On a eu une alerte Amber qui a fait sonner à peu près tous nos téléphones. Ça aussi, ça m'a découragé, surtout qu'on vient de voir comment ça s'est terminé de manière tragique. Je veux pas vous donner des conseils de vie, là, mais si ça va pas, allez chercher de l'aide. J'ai déjà eu des moments dans ma vie où ça allait moins bien, puis je suis allé chercher de l'aide. Il n'y a absolument rien de gênant là-dedans. Le rappeur qui a rappé tantôt, c'est Kidam. Allez télécharger son album Bleu Néon. Aussi, ben là, je vous cacherai pas que j'ai été très déçu par l'annonce de la direction de la santé publique de vouloir rendre la boxe impossible tant qu'on n'aura pas un vaccin ou un traitement contre le coronavirus. Je ne vais pas vous en parler plus parce que j'ai une entrevue de 15 minutes avec Kenny Victor Chéri, qui est un boxeur professionnel, qui est un gars qui a une maîtrise, un bac universitaire. Kenny a plus d'études que Marc Garneau. C'est pour vous donner une idée. On va lui parler. C'est pré-enregistré de quelques minutes. Je peux vous dire que il a pété les plombs pendant l'entrevue, mais il se ressaisit vite, mais vous allez voir. Je suis aussi, à travers tout ce malheur-là que j'ai vécu cette semaine, j'ai été au 85e anniversaire de Régis Lévesque. Ça, je vais vous en parler en long puis en large parce que je me suis réellement amusé. Même eu un moment où, tu sais, moi, j'étais un gars très technologique qui lâche jamais son téléphone. Puis à un moment donné, il y a eu un chanteur country qui est arrivé. Puis c'est le chanteur préféré à Régis. Puis Régis, il le regarde dans les yeux pendant qu'il chante. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, hey, faut que je vive le moment. J'ai mis mon téléphone dans mes poches. Puis j'ai vécu ma soirée. Je vais tout vous raconter ça. Il y a eu des combats, il va en avoir dans les prochaines semaines. On va aussi parler combat de boxe. Donc, c'était l'intro la plus décousue de l'histoire de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, l'épisode numéro 28. Je suis allé au Daily Beaubien pas plus tard que mercredi passé avec la rayonnante Nathalie Bruno. On s'est dirigé là-bas pour le 85e anniversaire de Régis Lévesque. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est toujours spécial un anniversaire quand c'est évident que ça va être ton dernier. Parce que Régis a appris qu'il lui restait quelques mois à vivre. Et sa fille, Annie Lévesque, qui est infirmière, a pris une pause à son travail pour vivre les derniers moments avec son père. Mais elle s'en occupe là, d'une main de maître. T'sais, elle l'amène au chalet, où on a vu une photo de Régis dans une couverte qui regarde des feux d'artifice. Tous ses amis vont le visiter. Et là, c'était sa fête au Dilly Beaubien, qui est une institution. Ça fait 35 ans que le propriétaire Sam Anastasopoulos, si j'ai bien lu, dans le fond, on voit que les Grecs qui ont des restaurants ont à peu près tous le même nom de famille, juste qu'il faut changer des syllabes. Ça fait 35 ans que il a son restaurant au coin de Beaubien et Pinneuf. À une certaine époque, Régis remplissait le Centre Paul Sauvé, puis tout le monde allait au restaurant. C'était le gros party après au Dilly Beaubien. Fait que moi, je me suis dirigé là-bas. Toujours un vieux truc que je vous donne. Quand c'est écrit 19h, j'arrive toujours à 6h05 pour pouvoir prendre des notes puis tout surveiller. Puis j'ai même refusé de l'overtime pour aller là. Vous voyez là que quand c'est Régis, je suis prêt à abandonner quelques centaines de dollars. Fait que je me pointe là-bas et là, je rentre. Et il y avait de la vedette au pied carré. Ils ont refusé beaucoup de monde à cause du COVID puis des mesures dans les restaurants. Mais j'ai vu Minik, 80 ans. Je vous le dis, Minik, il a de la classe, on dirait un homme de 60 ans, bien bronzé, toujours bien habillé. Un gars que je croise souvent dans le quartier Rosemont. Il y avait Minik, Gilles Prou. Et Gilles Prou, là, je veux dire une affaire, il a une grosse voix, puis il a une opinion à peu près sur tout. Il a pris le micro, fait un beau discours. Donc là, c'est ça, il y avait plein de vedettes. Mais là, ça a commencé, ils ont fait une fête. Ils ont fait un hommage à Régis. Et là, Jean-Pascal s'est pointé parce que Régis a déjà déclaré « Ah, j'aurais aimé ça promoter Jean-Pascal. » Pourquoi? Parce que Pascal a une belle couleur, colorée. C'est quelqu'un qui a des propos, qui est capable de contrôler une conférence de presse. Imaginez avec Régis le duo que ça aurait pu donner. Fait que Jean-Pascal est venu saluer Régis, le remercier. Il a eu la carrière qu'il a eue parce qu'un jour, Régis a défriché le terrain. En gros, c'était son discours. Il y a eu un chanteur, et là, je vais vous le dire, là, c'était beau. C'est le moment où j'ai mis mon téléphone dans mes poches, puis j'ai juste fait comme, il faut que je vive l'événement. Irvin Blais, un chanteur country. Au début, moi, je disais que c'était comme un parolier, mais qui jouait de la guitare. Puis il a chanté une superbe toune qui adressait à son père, mais qui avait remixé un peu pour les enfants de Régis, comme trois couplets. Puis surtout, la fille à Régis, Annie, est un peu pareille comme Régis. Tu sais, tu vois que c'est la fille de l'autre, là. Elle a l'air d'avoir du caractère, même si elle est super gentille. Et elle ressemble un peu à son père. Fait que là, ça, c'était quand même émouvant parce que Régis, il regardait le chanteur dans les yeux. Puis le chanteur chantait sa toune qui est magnifique. Puis là, t'avais la fille à Régis qui était là. Puis là, lui, il avait changé les mots pour la fille à Régis. Moi, je vais vous le dire, c'est le genre d'affaire que je suis venu les yeux pleins d'eau assez vite. L'animateur, c'était Scotty Davis, qui est un imitateur d'Elvis. Un type fort sympathique, là, qui ressemble à Elvis 43 ans après sa mort. Il y a eu le légendaire Paul Dubé, qui a pris le micro, a raconté une bonne vieille anecdote. Régis l'a fait battre chez les poilots, puis il l'a fait battre plus petit aussi contre Bonami, puis là, il racontait ça. C'était bien drôle. Gilles Prou, je vous l'ai dit, Jean-Pascal. Ah, il y a eu un autre beau moment. Ils ont dit, Régis, il y a quelqu'un qui peut pas être ici ce soir, mais qui a une chanson pour toi. Puis là, ça a parti dans les speakers. C'était Tigui et Mon. Et ça, c'était une belle chanson aussi. J'essaie de la retrouver, là. Je suis perdu, mais je vais écrire au fils au cerf-volant à Guillemont, puis je vais avoir la chanson. C'était beau, je vous le dis. Le propriétaire de l'endroit a pris le micro, puis il a dit « Régis, t'as ouvert un steakhouse dans le temps en Floride. Quand t'étais plus jeune, t'aimais manger des vrais steaks. » Il dit « Sur le menu, il va avoir le spécial Régis, une solide pièce de viande avec des patates frites. » Fait que ça, c'est sûr que je vais aller manger ça, là, en l'honneur de Régis. Il y a eu le dévoilement d'un superbe monument, une plaque commémorative des 60 ans de carrière publique de Régis. Et c'était présenté par Eye of the Tiger, et c'est Antonin Descarrie qui est sur le dossier avec l'aide de Don Majeski aux États-Unis, et ils chapeautent à deux le projet de amener Régis qui soit intronisé au Temple de la Renommée. Dans le fond, Montréal, c'est un gros marché pour la boxe. Il a régné sur ce marché-là pendant 30 ans. Donc, écoute, ça lui revient. Cette année, il n'y aura pas d'intronisation. On peut penser que ça va aller à 2021. Mais ça augure bien. Ça augure très bien. C'est Don Majeski qui va présenter Régis. Le projet va être amené par Antonin Descarrie. J'ai confiance et je vous fais une promesse solennelle. Si Régis est intronisé au Temple de la Renommée en 2021, je prends l'autobus puis j'y vais. Ça coûtera ce que ça coûtera. Donc, superbe événement. J'ai vu, tu sais, Régis, pour vous donner une idée, il est capable de réunir Antonin Descarrie puis Yvon Michel en dessous du même plafond, on allait dire, entre les mêmes murs. Il y a Bernard Barré qui était là. Jean-Marc Brunet, le naturiste. Lui, là, tenez-vous bien, c'est lui qui a le plus d'archives de boxe du Québec comme collection. C'est un collectionneur, il a tout chez eux, les programmes, les affaires, pareil, que c'est épouvantable. Il y avait le fils à Régis qui était là, qui commence à faire penser à Régis. Parle beaucoup, il parle, puis ça en vient de plus en plus coloré. Daniel Lévesque, je pense que c'est le prochain, il me fait penser à Régis. Quand je suis rentré à la porte, il y avait un petit gars fort sympathique qui nous pouche-poutait du Purel sur les mains, puis il nous donnait un masque qu'on avait le droit de mettre ou pas, là. Puis c'était le petit-fils à Régis, puis je me suis lié d'amitié avec, parce que la moyenne d'âge des gens, c'était 83 ans, puis moi, ben, je m'entendais bien avec son petit-fils, puis il me posait des questions comme « C'est qui ce monsieur-là? » Mais c'était Ménic, Gilles Proulx, Yvon Lambert était là, et j'ai expliqué un peu la hauteur du personnage qui était son grand-père. Puis le petit gars, il m'a dit « Je veux promoter. C'est-tu payant? » Là, j'y ai pointé Antonin Descarrie, puis je dis « C'est qui le gars le mieux habillé ici? » Il m'a dit « Celui que tu pointes. » Je dis « Ça, c'est Antonin Descarrie. C'est le mieux habillé, puis c'est probablement lui qui a le plus d'argent ici. » Puis là, le petit-fils, il a dit « Ouais, moi aussi, je vais promoter, mais que j'ai 18 ans. » Puis on s'est promis de se réécrire dans ce temps-là, ce qui a bien fait rire sa mère. D'ailleurs, je vais vous passer, dès que je finis du placoter, je vais vous mettre l'entrevue avec le petit-fils. Donc, superbe soirée pour Régis Lévesque. J'ai adoré ça. J'adore passer du temps avec Nathalie Bruno. Mary Pearl était là comme ring girl invitée. Elle s'est pointée avec une de ses amies, là, ring girl, une grande polonaise. Là. Oh, mon Dieu, la fille était gentille. Elle m'a dit 2-3 fois bonjour. Elle m'a demandé pour prendre un selfie avec moi. Puis moi, là, je vais vous le dire, cette fille-là, là, est probablement mariée. Là. Mais elle m'a dit bonjour, elle m'a demandé une photo. Un moment donné, j'avais pris 2-3 petites bières, il faisait chaud. Ça, un moment donné, je vais vous le dire, je suis tombé en amour. J'étais vraiment en amour, genre, je voulais plus m'en aller. J'étais bien avec les deux, j'écoutais le spectacle. Cette soirée-là, c'est la même journée qu'on a appris que la boxe avait vraiment des bâtons dans les roues par le gouvernement. Cette soirée-là, elle m'a fait du bien. Puis le temps que j'ai été avec tous ces artisans-là de la boxe, Robert Cléroux, avec qui j'ai discuté, que j'ai pris une photo, mercredi passé, au Daily Beaubien, pour la fête à Régis, j'étais heureux. On est en direct du 85e anniversaire de Régis Lévesque, avec son petit-fils Éloïc. Alors, Éloïc, c'est comment d'être le petit-fils de Régis Lévesque?
Ben, c'est spécial.
Mais j'imagine que t'es fier. Est-ce que tu te vantes de ça à l'école?
Non. Ben, je m'en sers pas trop.
Mais est-ce que tu as suivi la carrière de ton grand-père? Des fois, est-ce que tu vas sur Google pour voir les photos?
Ouais, j'ai souvent été quand j'étais petit à mon école, quand je pouvais prendre l'ordi.
OK, alors merci pour cette entrevue.
Ça fait plaisir.
J'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas le type de personne qui va se cacher derrière des éléments qui sont fictifs. Espérons que notre gouvernement va être intègre dans cette histoire-là bientôt.
Est-ce que le monde de la boxe pourra envisager des poursuites envers le gouvernement pour ce genre de décision qui se prend pas et qui vous fait perdre énormément d'argent?
Écoutez, on va continuer notre business. Malheureusement, on peut pas perdre du temps et de l'argent et des énergies, ni pour nous, ni pour le gouvernement. Il y a des choses qui sont bien plus importantes à faire. Mais nous, on va faire des galas ailleurs, si c'est le cas, qu'ils maintiennent cette décision. Alors, j'envisage pas de prendre une action légale, parce que c'est une perte de temps pour nous tous. Et il faut penser vraiment à la société, et non pas seulement à notre ego ou bien à nos fins personnelles.
Il y a certains...
Cette semaine, j'étais de bonne humeur jusqu'à temps que je me rende compte que la boxe professionnelle pourrait être mise de côté tant qu'il n'y aura pas de vaccin. On a vu le post de Eye of the Tiger qui revenait sur les propos de la santé publique. Quand le jeu se déplace en politique, je me dois de faire appel à mon ami Victor Chéry qui est au bout de la ligne. Salut Victor.
Bonjour, ça va bien Laurent?
Oui, pourquoi je suis allé te chercher? Parce que, attends, j'ai ma biographie ici. Baccalauréat en sciences politiques, maîtrise en sciences politiques. Tu as des spécialisations en affaires publiques et internationales. Et tu es ici, tu fais de l'enseignement postsecondaire, si j'ai bien lu.
Oui, c'est très exact.
Tu as le parcours que ma mère rêvait que j'aille quand j'étais petit. C'est ça. Ben, Kenny, moi, j'ai une première question pour toi, ça va brasser. Comment tu t'es senti quand tu as vu l'annonce? Parce que toi, tu as deux choses. Tu es un boxeur professionnel, mais dans ma tête, tu es aussi un intellectuel. Tu es quelqu'un qui réfléchit, tu es quelqu'un qui arrive à garder son sang-froid puis à avoir une opinion aiguisée. Mais là, tu es vraiment impliqué en même temps. Ça a été quoi ta première réaction cette semaine?
Ben, je dirais que... Je veux dire, je suis capable de comprendre le principe de base du pourquoi on veut pas que les pugistes professionnels veulent pas qu'on boxe. Mais si on regarde les étapes de déconfinement, je trouve que ça ne fait aucun sens, que il y a un petit peu de cafouillage au niveau des décisions de la santé publique par rapport à la pratique de certains sports vis-à-vis d'autres sports. Surtout en fonction de qu'est-ce qu'on apprend dans les médias en termes du plan de Tiger, du retour à l'action. Donc, je dirais beaucoup qu'il y a une sorte de cafouillage de la part de nos institutions gouvernementales au niveau du retour de la boxe en ce moment. C'est pour ça que je te dirais que je suis très déçu du traitement de la boxe par nos autorités gouvernementales.
Ouais, je suis content de t'entendre. Puis moi, ce que j'ai pensé, puis je vais te poser la question, est-ce que tu crois que la boxe, il y a eu mauvaise presse avec l'histoire des commotions, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas plus en boxe qu'en soccer ou en hockey. Mais est-ce que tu crois que tout ça part un peu des commotions puis de la mauvaise presse, puis que là, c'était facile un peu pour la santé publique de passer un autre agenda sur le dos du COVID?
Ça, c'est une hypothèse qui se vaut comme plusieurs qui peuvent être pertinentes à l'heure actuelle. Moi, je suis pas de ceux qui vont croire vraiment que la santé publique a un agenda contre la boxe. Je pense réellement que, et peut-être que c'est à tort, peut-être que c'est à raison, du moins, moi, mon opinion, je pense que c'est peut-être à tort, que les risques actuels liés à la pratique de la boxe compétitive, pour eux, c'est plus dangereux. Mais je trouve que c'est un argument en termes de santé publique qui est très négligeable. Parce que là, il faut penser au nombre de pratiquants de la boxe compétitive au Québec vis-à-vis tous les sports collectifs qu'on a réautorisés. Et là, on va se dire, est-ce que vraiment on protège les bonnes personnes? Permettez-moi d'en douter.
Je sais pas si tu as consulté le programme de, ben pas le plan de Eye of the Tiger, du retour à la boxe en 7 points, hey, c'était sévère et structuré. Là. C'est quand même difficile de comprendre les arguments un peu du gouvernement, parce que deux personnes testées qui s'affrontent peuvent bien se cracher de la gouttelette, et je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Là. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a même Kenny, je vais dire le mot, de mauvaise foi de la part du gouvernement? Juste le plan de Eye of the Tiger est resté 5 semaines sur le mauvais bureau, puis ça a été envoyé après, je pense, à la sécurité publique. Est-ce qu'on peut croire à une certaine mauvaise foi du gouvernement?
Je vais être sévère dans ce que je vais dire. Je ne vais pas dire mauvaise foi, je crois. J'avais employé le terme, puis je pense qu'il va être sévère de sens-ci, incompétence. C'est pas normal que quand une organisation aussi professionnelle qu'Eye of the Tiger, qui on se rappelle, dépense plusieurs centaines de milliers de dollars par année pour faire valoir la boxe au Québec et à l'échelle internationale, prend la peine d'envoyer un document en plusieurs pages au gouvernement, que ce même gouvernement n'est pas capable de l'envoyer au bon ministère et que ça reste 5 semaines sur les tablettes, en plus en période où est-ce qu'on veut déconfiner, où est-ce qu'on veut repartir l'économie québécoise. C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la pure incompétence, pure et simple. C'est pas normal. Je veux dire, il y a personne au gouvernement qui a réalisé qu'une organisation professionnelle qui organise des événements de boxe professionnelle, c'est pas de la boxe olympique, là. C'est pas le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, c'est le ministère de la Sécurité publique. Je pense sincèrement que c'est de l'incompétence, surtout quand on dit qu'un document d'une telle ampleur qui vise un redémarrage économique dans une certaine industrie reste sur les tablettes pendant 5 semaines. Il y a personne qui a pris la peine de regarder ça. Je pense pas que c'est la mauvaise foi. Je pense que mon terme employé est lourd de sens et il est très véridique.
Mais c'est surtout que je trouve que le gouvernement il peut s'appuyer sur ce qui se fait dans les autres pays. T'sais, on a vu que le UFC, ils ont très bien fait les choses. On voit avec Top Rank, c'est du sérieux. Je sais pas si tu as écouté cette semaine, Yvon Michel racontait à la radio que le père d'un boxeur a décidé d'aller jouer au casino. Il s'est fait intercepter tout de suite. Ils l'ont reconfiné dans une autre pièce. Puis le père était aussi l'entraîneur, mais il a pas entraîné son gars puis il l'a pas revu. T'sais. Ils l'ont caché, puis c'est comme ça que ça va marcher. C'est très strict, puis il y a moyen de s'appuyer sur ce qui se fait dans les autres pays, puis de faire la même chose. Tu sais, moi, je suis très déçu. J'ai une question un peu étrange pour toi, puis ça m'a chicoté toute la semaine. Tu sais, la boxe au Québec, il n'y a pas une tonne d'argent à faire avec ça, je pense. On voit que, tu sais, Yvon Michel, maintenant, sa façon de faire les choses, son plan d'affaires, c'est d'aller collecter à l'étranger, puis de prendre son pourcentage avec des boxeurs établis. Camille était le seul à investir dans la région, dans la province. Mon inquiétude, c'est-tu dangereux qu'un homme d'affaires comme Camille décide simplement de retirer ses billes? C'est trop compliqué de faire des affaires au Québec?
Oui, c'est une certitude que c'est un danger. Là, parce que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on met des bâtons dans les roues de quelqu'un qui est prêt à investir dans la boxe au Québec malgré qu'il y a déjà des bâtons dans les rues. Là. On s'entend, là. Je veux dire, pour les prochains galas, ils allaient être déficitaires avec des galas à huis clos. Mais il faut pas oublier quand même cet aspect-là que c'est beau qu'on dise qu'il y a pas beaucoup d'argent à faire dans le Québec en termes de boxe, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours ces retombées additionnelles de côté. On peut penser aux galas en région où est-ce qu'il y a du tourisme régional qui se fait à cause de la boxe, ou on peut penser vraiment au resto-bar ou même aux soirées entre amis, etc. Il y a une réalité, c'est que l'industrie du sport, là, je spécifie dans l'industrie de la boxe, il y a des retombées qu'on pourrait dire additionnelles, qu'on ne calcule pas nécessairement en fonction de l'achat au guichet, et c'est très dommage que le gouvernement ne prenne pas ça en compte.
Mais je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai vu Stéphane Ouellet perdre contre Dave Hilton, j'étais jeune, j'étais tellement fâché, j'étais allé m'inscrire au club de boxe champion le lundi en me disant « je vais m'en occuper moi personnellement ». Mais ça n'a pas mené à grand-chose, je me suis entraîné 2 semaines. Mais j'ai quand même payé un abonnement. Il y a tous ces clubs de boxe-là aussi que pour envoyer les jeunes dans les clubs de boxe, ça prend des vedettes comme à l'époque Stéphane Ouellet et Éric Lucas. ont convaincu combien de petits gars d'aller s'abonner dans les gyms de boxe?
Non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et je veux dire, on va se dire, moi, je tiens à dire que je crois quand même en la pertinence de nos institutions publiques, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? C'est de tuer de manière subtile la boxe en nous disant, OK, il n'y aura pas de boxe professionnelle et un petit peu de par de sur quoi de boxe amateur de compétition jusqu'à la présence d'un traitement viable ou d'un vaccin. Donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de boxe, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la majorité des gens vont rester dans les gyms? Permettez-moi d'en douter. Donc, je pense que la perspective de rencontrer les ministères concernés, d'avoir vraiment des intervenants des sports de combat qui s'assoient avec le gouvernement pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, pourquoi pas? Parce que je veux dire, tu nous as partagé quelque chose au sujet que la France, qui était un des pays les plus atteints en Europe, justement, ouais, des sports de combat pouvaient redémarrer à partir du 11 juillet prochain. La question qu'on veut se poser, pourquoi en France ça marcherait? Mais pourquoi ça ne marcherait pas au Québec? Là, on va me dire que par 1000 habitants, il y a plus de gens qui sont atteints du COVID au Québec qu'en France, ce qui peut être une statistique, mais là, il faut remettre tout en perspective. La majorité des infections au COVID se sont produites où? Dans des centres de personnes âgées. Donc, puis là, c'est pas dire que le reste de la population n'est pas sensible aux symptômes. Qu'est-ce que je dis? C'est que il y a moyen de travailler pour que la boxe professionnelle et de surcroît la boxe olympique soit sécuritaire, parce que là, en ce moment, les décisions du gouvernement sont un petit peu en plein de favoritisme envers certains sports et incohérentes.
Je vais faire le gag, mais c'est vrai. Là. Au début, quand ils ont déconfiné le golf, ils ont permis aux gens d'aller golfer, ils avaient trouvé 2-3 autres sports pour pas que ça ait l'air que c'est juste le golf qu'on pouvait pratiquer, tu sais, parce que on sait que les dirigeants d'entreprise golfent beaucoup. Kenny, toi, tu as étudié, j'ai fait ta liste tantôt, j'ai fait la liste de tes diplômes. Moi, je suis plus comme un citoyen, mais qui surveille l'affaire politique. Ma question pour toi, est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les choses sans dire achaler, mais en écrivant notre député? Est-ce que c'est la seule façon de gagner? C'est de montrer qu'on est fâché, de montrer qu'on pourrait s'en souvenir lors d'une élection. Puis je vais donner l'exemple, le député de la CAQ, mais qui aurait gagné par 132 votes dans son comté. S'il reçoit 40 courriels par jour comme quoi on est fâché sur une décision, mais il pourrait mettre de la pression sur François Legault. Il dit, hey, c'est impopulaire, c'est en train de devenir un enjeu de société. On a peut-être mal fait les choses. Attarde-toi à ça, François Legault. Est-ce que c'est la façon de faire en politique?
Je te dirais, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, mais surtout dans le contexte actuel de la société, qu'on est en pandémie, qu'il y a beaucoup moins de déplacements, etc. Je pense que vraiment de se mobiliser, je donne un exemple, puis faut que je cite la personne, Marie-Pierre Roule, qui a vraiment mobilisé une partie de la communauté de la boxe au Québec, puis on le voit déjà dans les médias. C'est vraiment de s'adresser aux médias et surtout de s'adresser à nos représentants locaux, dans le cas présent, nos députés provinciaux, pour leur faire valoir nos points. Parce qu'il y a beaucoup de points contradictoires par rapport au déconfinement de certains sports, par rapport à la boxe professionnelle. Moi, je m'excuse, je regarde le plan en sept points d'Eye of the Tiger, je suis comme, il n'y a rien de mal qui peut se passer. Tandis que moi, quand je m'en vais me promener à mon parc de quartier, voir des games de soccer, sport collectif autorisé, je m'excuse, il y a quand même des gens dans les gradins, on sait pas qu'est-ce que les jeunes, puis là, c'est pas un jugement personnel, on sait pas où ce que les jeunes ont traîné, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais qui ont la COVID-19, et même ils sont pas tout le temps collés ensemble, là, sur une phase de jeu à terreté, admettons, sur un corner, c'est possible qu'une personne asymptomatique donne la COVID-19 à quelqu'un d'autre.
Ben, c'est
puis l'impression, on va se promener, je sais
pas. C'est 10 contre 10, comparé à 1 contre 1.
Donc, là, il y a quand même cette absurdité-là. Donc, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je recommande vraiment aux auditeurs de ton podcast? S'il vous plaît, restez professionnels dans vos interactions lorsque vous allez communiquer avec votre député local. Pour ceux qui ont vraiment la présence médiatique pour le faire, adressez-vous aux médias. On voit déjà que plusieurs intervenants médiatiques prennent la parole en faveur de la boxe professionnelle. Je pense à toi-même, je pense à Régent Tremblay ce matin dans le Journal de Montréal, etc. Donc, c'est les deux moyens majeurs de faire bouger les choses. Et je vais être honnête, moi, je vois ma prédiction personnelle. Je pense vraiment que ce n'est pas une décision de santé publique qui va pouvoir rester indéfinie. On s'entend, c'est quelque chose qui est considéré. C'est pas quelque chose qui est officiel, mais je pense que cette considération va prendre le bord assez rapidement.
Mais en politique, comment on appelle ça? Lancer un ballon, puis après, tu regardes ce qui se passe, puis tu reviens sur ta décision. Est-ce qu'on a été chanceux, Kenny, c'est ma dernière question, est-ce qu'on a été chanceux que ce soit un peu mal fait par le gouvernement? Parce que la boxe, avec les commotions, puis tout, je peux pas dire qu'on a 100% de l'appui de la population. Mais là, la manière que ça a été fait, puis la manière que ça a été fait de manière injuste face à d'autres sports, on dirait qu'on a rallié tout le monde. Là. Tout le monde est d'accord avec nous. J'ai rien vu de négatif à radio. 100% des intervenants sont avec nous dans le journal. Quasiment merci au gouvernement d'avoir mal fait les choses. Ça a permis de rallier tout le monde.
Ben, je pense que tu as raison. Je pense qu'on a été chanceux dans cette perspective que le gouvernement Legault, surtout depuis le début du mois de juin, on le voit, l'échappe un petit peu dans sa gestion de la pandémie du coronavirus. Donc, ça, c'est sûr que c'est parfait pour nous. Puis je pense qu'ils n'auront pas le choix éventuellement de reculer sur une autre décision qui pourrait s'avérer impopulaire à long terme. Parce que là, faut s'en rappeler, là. Je veux dire, les élections sont dans 2 ans, là. Il y a 365 jours en politique, c'est long. Mais même si on apprécie la gestion de la crise par le gouvernement, c'est pas le temps de faire des décisions impopulaires, même si elles n'affectent qu'une partie minime de la population. Parce que c'est facile de mobiliser les gens, surtout à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, puis on le voit depuis 2 jours.
Mais il va aussi avoir l'après-crise, où là, on va se poser la question suivante, pourquoi il y a eu plus de morts au Québec que dans le reste du Canada? Et c'est là aussi que Legault risque de prendre une claque, puis j'imagine un jour que les budgets, hein, il va falloir qu'on paye tout l'argent qui a été garoché, fait que Legault pourrait avoir des années plus difficiles dans les années à suivre. Kenny, merci d'avoir été là. Toujours instructif. Puis la prochaine fois qu'on se parle, peut-être que Kanye West va être président des États-Unis.
En espérant que tu te trompes, que tu te trompes royalement. Mais oui, bien sûr.
Merci d'avoir été là. À la prochaine.
À la prochaine.
Les gens ne le savent pas, mais j'ai moi-même déjà été en couple avec Marie-Pierre Morin. Puis dans l'intimité, elle me demandait souvent de la mordiller. Même quand elle me trouvait bon, elle disait que j'étais bon en cuisse.
Oh my God, Laurent, man! Mais moi, j'en reviens pas de cette histoire-là. Mais là, celle-là, je te l'accorde, elle était bonne.
On a su cette semaine, même si il fallait pas en parler, l'identité de l'adversaire de Kim Clavel, la Barracuda, Nathalie Gonzalez, une Américaine qui est allée 2 fois au championnat des gants dorés de l'État de New York et une médaillée d'argent au championnat américain en 2014. C'est une fille qui a une fiche de 6 victoires, 0 défaites et 1 combat nul. On lui a dit la même chose que Kim Clavel. Tu l'emportes, tu gagnes un contrat. C'est une bonne adversaire. C'est une fille qui n'est pas mauvaise. Elle n'a pas l'expérience nécessaire pour devenir un challenge pour Kim. Mais elle a un style différent de la plupart des Mexicains que Kim a affronté. C'est une fille qui, on appelle ça dans le jargon, une puncheuse. Elle a un style très portoricain. Elle fait tout bien, rien d'exceptionnel. Elle a une meilleure mobilité, un meilleur jeu de jambes que tout ce que Kim a vu à date. Elle lance en combinaison, puis elle bouge la tête après avoir lancé ses coups. Contrairement aux Mexicaines, qui ont tendance à lancer les coups, puis à rester là pour la contre-attaque. Mais elle présente rien que Kim n'a pas vu, là. Inquiétez-vous pas.
Kim Clavel remportera ce combat assez facilement le 21 juillet prochain. Et là, je vous amène dans ce qui est intéressant. Je vous invite tous au Resto Bar Le Coin du métro. Je vais prendre ma seule journée de congé dans l'année le lendemain pour pouvoir veiller très tard avec vous autres. Donc, mardi le 21, on se rejoint au coin du métro. On fait la fête. Il y a déjà 50 personnes qui ont confirmé. Shooter, alcool, verre d'eau pour ceux que c'est mieux qu'ils boivent de l'eau. Aile de poulet, vous mentionnez le podcast Laurence écoute parler. Vous avez une 13e aile au prix de 12, ce qui est quand même assez intéressant. Ginger ale à volonté pour l'animateur de ce podcast. Donc, je vous invite tous, on se voit pour le combat de Kim qui va gagner un contrat chez Top Rank le 21 juillet prochain au Resto Bar Le Coin du métro au 10-719 rue La Jeunesse à Montréal. Ça va vraiment mal aujourd'hui. Je pense que ça fait 7 heures que j'essaie d'enregistrer le podcast, puis il arrive toujours des affaires. L'application s'est éteinte. L'autre application où je rentre le MP3 a explosé. Ça va vraiment mal. Et je le sais que quand je fais des entrevues, le son est plus bas. Je ne suis pas capable d'arranger ça. Et comme je travaille trop, j'arrangerai pas ça tout de suite, mais éventuellement, je vais apprendre à réguler le son. Ne vous en faites pas. Les nouvelles de la semaine. John Ryder a toujours l'intention d'affronter Canelo. Sinon, il vise la moitié de la planète. Tout le monde qui a une ceinture. John Ryder a bien joué ça. Son surnom, c'est le Gorille. En challengeant Canelo, il a réussi à se faire beaucoup de presse. Bob Arum a pogné les nerfs et a sacré dehors Gerald Big Baby Miller, le gars qui a plus souvent des problèmes de stéroïdes que de combat sur le ring. Canelo Alvarez, tenez-vous bien, aimerait boxer malgré la pandémie en septembre et décembre. Je vous l'ai dit qu'il veut terminer ce contrat-là le plus vite possible, mais aurait aussi accepté de prendre un peu moins d'argent. José Ramirez, Victor Postol au mois d'août et j'ai hâte à ce combat-là. David Benavidez va affronter Romer Angulo le 15 août prochain sur Showtime. Adrien Bruner veut revenir à 140. C'est autoproclamé la vache à lait de la boxe. Hélder Alvarez fera finalement face à Joe Smith au mois d'août entre le 17 et le 21. Sri Saket Soy Runvuzai, celui qui a battu deux fois Chocolatito Gonzalez, va affronter Amnat Ruengrong le 1er août en Thaïlande. J'étais en colère. Le jeu UFC va sortir sa 4e édition avec Tyson Fury et Anthony Joshua à l'intérieur. J'étais pas content. Brad Foster a gagné son combat sur pay-per-view. Il y avait 5000 achats, fait que tout le monde était bien content en Angleterre. Carlos Takam, lui, se battait cette semaine, a battu Jerry Forrest. 4e victoire de suite pour Takam, qui a maintenant une fiche de 39 victoires, 5 défaites. Et en débarquant du ring, après sa victoire, a déclaré qu'il voulait affronter Oscar Rivas. Dans le fond, c'est un combat qu'on entend depuis des lunes, qui n'est jamais arrivé. Takam est rendu à 39 ans. Il a bien boxé, là. Il garochait des crochets. Il se posait pas trop de questions, mais il a brisé un peu en deuxième moitié de combat. Il était près de 250 livres, puis il a commencé à manquer d'énergie. Donc, pourrait être cueilli par mon ami Oscar Rivas, sans trop de problèmes, j'ai l'impression. Un gars sûr. Moi, je trouve qu'il est sur mesure pour Oscar, parce qu'il n'est pas particulièrement grand et gros, là, même si là, il était à 2,45. Tu sais, Oscar, c'est plus si le gars mesure 6 pieds 7, le problème. Là. Tant qu'on reste avec Takam, il devrait pas avoir de problème. Et Oscar devrait l'emporter sans trop de problèmes. C'était les nouvelles de la semaine.
Mais sans joke, je trouve que t'as l'air plus jeune que... T'as dit quoi? T'as dit 38? T'as dit 30? Passé 35, en tout cas. Je t'aurais peut-être donné, genre, max 35. Je trouve que ça se conserve bien, la rousseur.
Déjà, la conclusion de ton programme préféré, Laurence Écoute Parler. Marie-Pierre Houle, je veux te remercier. Elle a mis... sur pied un groupe sur les Facebook. Elle a rejoint tous les boxeurs, tous les promoteurs, tous les journalistes, tous les gens influents comme moi. Et son message est le suivant. On oublie de quelle couleur on est. Je parle de quelle couleur, le orange Eye of the Tiger ou le bleu groupe Yvon Michel. On va chercher tous les boxeurs indépendants et on va faire front commun pour... attaquer le gouvernement, mais intelligemment. T'sais, elle a dit, ça sert à rien d'insulter votre député ou de dire que Arruda, c'est un pas bon. T'sais, ça, vous pouvez le penser chez vous, mais intelligemment, on va faire les choses, puis on va communiquer avec le gouvernement pour réobtenir le droit d'avoir de la boxe professionnelle. Pensez juste à Régent Tremblay qui a fait un texte exceptionnel ce matin, donc samedi le 10 juillet dans le journal. Mais ça a été partagé. Il faudrait que je parle à Régent, mais probablement qu'il va battre un record de clics. Mais moi, ce que j'ai dit, partagez-le, puis pourquoi pas taguer votre député provincial. Il va le voir, inquiétez-vous pas. Il voit tout, ou quelqu'un va y dire. Il y a un journaliste dans la région de Thetford Mines, que je ne vais pas vous nommer, il a écrit à sa députée, puis il a demandé, « Pouvez-vous m'expliquer votre position sur la boxe? » Elle a répondu qu'un beau copier-coller de « J'ai rien à dire. » Puis il a dit, « Ben, je suis journaliste, je vais être obligé d'aller devant les médias puis dire que vous n'avez rien à dire. » Puis là, tout de suite, elle a donné son numéro, elle a dit « Appelez-moi, on va parler. » Fait que vous voyez, lui, mais c'est un homme intelligent, c'est un homme instruit, je le salue, mais il va pouvoir parler à la députée. Puis il y a des coins, comme j'ai dit avec Kenny, peut-être des députés, je ne sais pas, qui sont un peu plus menacés à la prochaine élection, qui peuvent aller voir Legault ou simplement en s'exprimant bien, la personne va amener le message au premier ministre. Écoutez, on va trouver des solutions, trouver une manière de faire. Je ne sais pas à quel point Arruda, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il nous en veut vraiment, est-ce qu'il est juste mal renseigné sur le sport, où il y a des vieux préjugés, il n'aime pas la boxe, mais en même temps, c'est pas lui qui se posait décider dans ce sport-là. C'est simplement le directeur de la santé publique. Là. Il n'est pas supposé se préoccuper de la boxe. Si le protocole de Eye of the Tiger réduit à zéro les chances d'infection, mais il faut faire du sport, il faut relancer l'économie, puis il faut vivre. Là. Moi, je suis tanné de ne pas vivre. Fait que merci à tous d'avoir été là. On se voit le 21 au soir au Resto Bar Le Coin du métro. Venez en grand nombre et surtout, n'ayez pas peur de venir me parler. Je sais que je peux paraître intimidant par ma stature, mais je dois être à peu près la personne qui aime le plus parler aux gens. Tu sais, pour vous donner une idée, à Régis Lévesque, je me suis assis dans l'entrée pour saluer tout le monde. Je vais probablement faire la même chose au coin du métro. Et je suis parfaitement de bonne humeur. Les antidépresseurs frappent fort dans les derniers temps. Fait que venez me voir. Venez voir Costa. Les restaurateurs ont mangé une claque. Prenez-vous des ailes de poulet. La 13e est gratuite. Et à bientôt.